Bonsoir. Au premier semestre 2024, 650 Congolais ont demandé l'asile en Belgique, a indiqué samedi 13 juillet le directeur de l'Office des étrangers belges en visite à Kinshasa. Il a dit lors d'un point de presse. Freddy Rosemont a précisé que la Belgique reçoit en moyenne 100 demandes d'asile des Congolais par mois. Bruxelles ne se réjouit pas de cette situation, même si elle reste ouverte, a-t-il souligné. Il s'est étonné que les efforts conjoints entre l'Office des étrangers belges et les services de migration de la RDC n'aient pas encore réussi à freiner l'afflux des demandes d'asile des Congolais cherchant une protection juridique en Belgique. En 2023, l'Office des étrangers belges a reçu 1250 demandes d'asile en provenance de la RDC. Qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, ces nombreuses demandes d'asile des Congolais? C'est le thème des dialogues entre Congolais de ce mercredi 17 juillet 2024. Participe au débat Jean-Michel Kalongi avec moi dans ce studio. Il est analyste politique et stratégique. Il est membre de l'Union sacrée de la nation et coordonnateur de la base pour le développement du Congo, BDC en sigle. Il a été coordonnateur de la campagne 2020 pour le numéro 20 lors de l'élection présidentielle de décembre 2023 en RDC. Jean-Michel Kalongi, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Prince Epengue qui va nous rejoindre dans un tout petit moment dans ce studio. Lui, il est président du parti politique Action pour la démocratie et le développement au Congo, ADD Congo en sigle, membre de la plateforme Lamouka. Il est parmi les porte-parole de cette plateforme politique. Prince Epengue, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et depuis Kisangani, le professeur Alphonse Maindo, professeur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Professeur Maindo, bonsoir.
Bonsoir, madame. Bonsoir à tous mes co-débatteurs.
À Kisangani, dans la province de la Tchopo, vous nous suivez sur la 98.4. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookepi.net, sur DSTV, canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en live sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine. Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net. La Belgique se plaint de l'augmentation des demandes d'asile des Congolais qui cherchent une protection juridique. Le directeur de l'Office des étrangers belges en séjour à Kinshasa s'en est clairement exprimé samedi au cours d'un point de presse. Pour l'Office des étrangers belges, les Congolais doivent éviter de se donner aux trafiquants des demandes d'asile qui ne rassurent pas. Askin Zibiar pour le reportage.
Les efforts déployés entre l'Office des étrangers belges et les services de migration de la RDC ne viennent pas à bout de l'afflux de demandes d'asile des Congolais de Kinshasa cherchant protection juridique en Belgique. D'après Freddy Rosemont, directeur de l'Office des étrangers belges, son service a reçu en 2023 1220 demandes d'asile venant de la RDC. Au semestre de cette année 2024, 650 Congolais ont demandé l'asile en Belgique. En moyenne, 100 demandes d'asile par mois. La Belgique ne s'en réjouit pas, même si elle en reste ouverte. Freddy Rosemont.
Tout le monde qui a besoin de protection va le recevoir. Seulement le problème ici avec beaucoup de ressortissants congolais est qu'ils n'ont pas besoin de protection dans le cadre du Convention de Genève. Ils ont peut-être des difficultés socio-économiques, ils veulent avoir une meilleure vie. Ça, ça ne tombe pas dans le cadre de l'asile. Donc, il faut informer le public correctement que quelqu'un qui leur dit « utilise le processus d'asile », c'est un mauvais conseil. Parce que c'est le temps perdu, c'est l'argent perdu.
Il faut noter qu'en termes de demande d'asile en Belgique, la RDC est le sixième pays au monde sur la liste. Après la Palestine, la Syrie, Afghanistan, Érythrée et la Turquie.
Merci Askan Zigbia pour ce reportage. Jean-Michel Kalongi, vous êtes analyste politique et stratégique, vous êtes membre de l'Union Sacrée de la Nation et coordonnateur de la base pour le développement du Congo BDC, en sigle 650 demandes d'asile des Congolais, que ce soit pour le premier semestre 2024, selon le directeur de l'Office des étrangers belges qui est en visite à Kinshasa. Comment vous pouvez expliquer ce nombre élevé des demandes d'asile des Congolais en Belgique?
Nous allons un peu essayer de circonscrire les faits socio-économiques de notre pays pour que vous puissiez comprendre cette question dans sa globalité. Nous sommes dans un pays depuis trois décennies en guerre et aujourd'hui nous sommes sous agression du M23 depuis l'année passée. Et vous savez que quand il y a guerre, c'est beaucoup de déclassés des guerres que nous avons déjà en interne, mais aussi beaucoup qui sortent du pays. Vous savez que dans la partie est du pays, nous avons beaucoup des ONG qui facilitent les déplacements ou les regroupements familiales. Donc il y a beaucoup de ces Congolais qui se retrouvent sur l'espace Schengen et qui après, pour des raisons économiques ou sécuritaires et autres, font cette demande d'asile. Nous avons aussi des problèmes de regroupement familial ou sociaux. Il y a une forte communauté congolaise en Belgique qu'il faudrait ne pas négliger. Et dans cette forte communauté, ils font appel à un ou deux membres de famille restés au Congo. Et la meilleure façon de pouvoir avoir les papiers plus facilement, ils se tournent vers des demandes d'asile que de chercher une autre voie. Donc ce n'est pas nécessairement qu'il y a évolution de la répression au pays, mais ce sont des raisons économiques. Nous ne pouvons pas nier que le Congo traverse quand même une crise depuis plusieurs années et que le gouvernement en place est en train de faire des efforts.
Qui s'est accentué avec l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir.
La crise c'est pas du tout accentué. Le pays est beaucoup plus stable aujourd'hui et le gouvernement fait des améliorations en termes de paiement des salaires. Aujourd'hui, nous avons tous les fonctionnaires sont payés dans le temps. La prise en charge médicale, nous avons soulagé la population par rapport à la scolarité des enfants. Aujourd'hui, tu peux scolariser tes enfants gratuitement en République démocratique du Congo. Il y a ce vaste projet pour essayer de viabiliser nos territoires avec les 145 territoires. Et il y a tant d'autres projets qui sont en train d'être mis en place. La création de la richesse reste un réel problème en Afrique, mais avec une guerre nous imposée, et je suis dans une radio onusienne, c'est l'ONU, c'est la MONUSCO qui aujourd'hui a étalé dans son rapport qu'il y a plus de 4500 militaires rwandais sur notre territoire. Aujourd'hui, il est prouvé que l'Ouganda est sur le territoire et soutient le M23. Donc avec toutes ces crises, nous avons difficile à pouvoir financer la partie économique de notre pays, parce qu'aujourd'hui le budget est terriblement pris, prend en charge cette guerre qui nous est imposée et qui déstabilise les financements.
Vous reconnaissez quand même qu'il y a une sorte de crise économique en RDC.
Je ne dis pas crise.
Je ne dis pas crise économique.
Non. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se retrouvent en dehors du système. Je vous donne l'exemple. Parmi ces demandeurs d'asile, vous avez un homme politique de la trempe de Franck Diongo. Vous pouvez me dire quelle est la situation de Franck Diongo pour qu'il s'exile et aille demander asile en Belgique. Vous avez autant de journalistes que je peux citer qui se reprochent de je ne sais quoi, se retrouvent en Belgique comme demandeurs d'asile. Nous avons des personnes pour des raisons de guerre.
En plus de la situation économique, peut-être à cause de l'oppression selon certains Congolais.
La situation économique, tous les fonctionnaires sont payés. Tout celui qui avait un travail dans les règles de l'art est salarié et payé. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui se retrouvaient malheureusement sous l'ancien régime, qui ne travaillaient pas mais se retrouvaient être sur 7-8 listes de fonctionnaires. Donc ces personnes se retrouvent qu'ils ne peuvent plus rentrer au pays parce qu'ils peuvent être poursuivis par la justice administrative, parce qu'ils se reprochent qu'ils n'ont plus l'argent facile qu'ils avaient, ils se retrouvent être demandeurs d'asile. Ce que je voudrais d'abord...
Le pays
d'abord,
est stable aujourd'hui,
le selon pays, vous? Le pays est stable, nous sommes agressés, c'est une évidence, mais sur le plan macroéconomique, le pays essaye de trouver des solutions et stabiliser le pays. Nous sommes en train de stabiliser le pays malgré la guerre qui nous est imposée et le budget du pays fait que nous sommes en mesure de prendre en charge ce qui est budgétisé. Mais ces personnes, aujourd'hui, on nous dit il y a 650 demandeurs d'asile pendant le premier semestre. Très bien. Comment est-ce qu'ils se sont retrouvés sur l'espace Schengen? C'est parce que les pays qui, aujourd'hui, le déclarent, leur ont donné des visas. Ils ont pensé que ces personnes étaient dans les conditions de sortir du Congo et aller en Belgique pour les raisons que eux connaissent. Ces personnes arrivées en Belgique changent de situation. Ils étaient partis pour des raisons touristiques. Aujourd'hui, demandent l'asile. Ça, ce n'est pas un problème du pays. C'est à eux de se demander dans quelles conditions ils ont accordé les visas à ces personnes.
Mais est-ce que c'est la RDC ne doit pas non plus ne doit pas se poser aussi la question pourquoi il y a tant de départs, pourquoi il y a tant de demandes des visas des Congolais qui quittent le pays aujourd'hui?
Je vous ai donné des pistes. Il y a des conditions sécuritaires qui font que la plus grande partie de nos frères et sœurs qui habitent la partie est du pays cherchent à sortir du territoire pour se sécuriser et se réfugier. Nous avons, bien entendu, une crise économique. Nous ne pouvons pas le nier que nous sommes dans un pays qui a un PIB très faible. Nous sommes en train de remonter la pente, mais dans cette situation, il y a certaines personnes qui pensent que l'Eldorado, c'est en Occident. Ce n'est pas aujourd'hui que cela a commencé. Mais au-delà de cela, il y a une forte communauté congolaise qui vit en Belgique, qui fait pression et qui cherche par tous les moyens de regroupement familial, de faire venir les membres des familles restées au Congo, et que quand ces personnes arrivent avec des documents en ordre parce qu'il y avait une prise en charge d'un Congolais sur place, demain cette personne devient demandeur d'asile et se crée une situation entre guillemets d'oppression fantaisiste pour pouvoir rester sur les territoires congolais. Dans votre reportage, le représentant belge le dit que plusieurs de ces personnes sont arrivées pour des raisons peut-être économiques et cherchent une demande d'asile. On ne demande pas l'asile pour des raisons économiques, on demande l'asile quand on se sent être opprimé.
Pour des raisons économiques aussi, c'est le cas des Congolais. La plupart des Congolais, c'est parce que...
Il y a du travail au Congo. Aujourd'hui, je vois les Libanais...
Il y a du travail au Congo.
Pourquoi est-ce que les Libanais, Chinois, Indiens quittent leur pays pour venir s'enrichir dans notre pays? Et malheureusement, nous les Congolais, on pense que la richesse est en Occident. Je voudrais comprendre, les Indiens sont venus, ils ont créé des petits fast-food, nous avons vu les Libanais, aujourd'hui ce sont des grands patrons sur cette ville. Mais pourquoi nous, on ne veut pas aller dans l'entrepreneuriat, on veut tous être politiciens, on veut tous vivre de la manne? Non, il faudrait travailler et créer sa richesse.
Dans l'entrepreneuriat, il faut faciliter les choses.
Non, mais aujourd'hui...
Les entrepreneurs se plaignent aujourd'hui, ils ne sont pas accompagnés par le gouvernement.
Aujourd'hui, sous la politique de Félix Tshisekedi, avec la respect, aujourd'hui, on est en train de mettre toutes les sociétés étrangères qui se partageaient les marchés dans les secteurs miniers en dehors pour donner les marchés aux Congolais. Donc, on est en train de donner du pouvoir d'achat et des moyens aux Congolais. Le problème, c'est que le Congolais ne veut pas travailler, il voudrait de la gratuité. Non, merci. Ils vont en Belgique pour vivre du social, mais demandez-leur de venir et de travailler. Il y a du travail ici. Il y a aujourd'hui, allez vers le ministère de l'Emploi, allez vers l'OM, vous allez trouver qu'il y a plusieurs offres d'emploi.
Merci Jean-Michel Kianogi. Prince Epengue vient de nous rejoindre dans ce studio, président du Parti politique Action, du Parti politique, je voulais dire, Action pour la démocratie et le développement au Congo, ADD Congo en sigle. Il est membre de la plateforme La Mouka. Il est parmi les porte-parole de cette plateforme politique. Prince Epengue, votre lecture, lecture sur la déclaration du directeur de l'Office des étrangers belges qui a annoncé lors d'un point de presse qu'il y a eu 650 Congolais qui ont demandé l'asile en Belgique juste pour le premier semestre 2024. Pour lui, Bruxelles ne se réjouit pas de cette situation, même si elle reste ouverte. Quelle est votre lecture? Vous avez suivi Jean-Michel Kalongi de l'Union Sacrée. Pour lui, le pays est stable. Il ne voit pas pourquoi les gens iraient demander l'asile en Belgique. Hein.
Bien. Peut-être qu'il parle de notre pays, mais pas du Congo que M. Félix Tshisekedi a transformé en enfer. Ces chiffres donnent le vertige et en même temps doivent nous inviter à remettre en question notre modèle sociétal. Je reconnais toutefois que dans le contexte actuel où il n'y a plus d'autorité de l'État, où tous les secteurs de la vie nationale sont en lambeaux, vous savez que le seul citoyen congolais qui a une carte d'identité s'appelle Félix Tshisekedi. Nous tous là, si je vous demande, vous, madame, de me prouver que vous êtes congolaise, quel document allez-vous me brandir? Pendant 6 ans, en dépit du fait que Félix Tshisekedi s'est transformé en une véritable machine à promesses, il a promis une carte d'identité. Et seul lui est allé, accompagné par 1000 journalistes et 1000 caméras, mais depuis, aucun n'a une carte d'identité. Donc, j'ai, tout en déplorant les faits tels que décrits, je ne peux pas avaliser ces chiffres, dans la mesure où, aujourd'hui, nous avons des témoignages de certains Congolais qui disent qu'au Canada, il y a également des Rwandais qui demandent l'asile au nom du Congo. Évidemment qu'aujourd'hui, il y a des papiers imprimés par Kadima Kona, considérés comme des cartes d'identité. Et vous savez que ces machines-là, il y en a qui disent qu'elles se sont retrouvées au Rwanda. Et les gens prennent ces documents-là, vont dans plusieurs pays européens, américains et autres, et demandent l'asile au nom du Congo, et en lien place des enfants du Congo. Nous avons le témoignage.
Donc vous doutez de chiffres donnés par les directeurs de l'Office des étrangers belges?
En tout cas, dans un contexte où on ne sait pas qui est Congolais, qui ne l'est pas, je ne sais pas. Tout d'abord, monsieur de l'Office des étrangers, et les demandes qui ont été déposées, sur base de quels documents ont-ils prouvé qu'ils sont Congolais? Certainement, certains ont brandi les cartes d'électeur. Parce qu'il n'y a pas de carte d'identité. Et donc, nous sommes dans un contexte où les Ougandais, les Rwandais et autres viennent chez nous, prennent nos documents. D'ailleurs, certaines machines d'électeurs d'enrôlement sont chez eux et ils s'enrôlent, etc. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que immigré, par définition, c'est celui qui vit dans un pays autre que le sien. Un émigré, par définition aussi, c'est celui qui quitte son pays pour vivre dans un pays qui n'est pas le sien. Je voudrais d'abord donner le contexte pour vous montrer quels sont les types d'immigration et pourquoi on demande l'asile. Et les Européens sont les premiers à avoir été chez nous. 13e siècle, 14e siècle, et vous montez. Ils venaient pourquoi? Écoutez, et je vais dire 90% des Européens qui sont venus en Afrique au XIIIe siècle sont venus pour des raisons économiques. En commençant par l'Afrique du Nord, le pourtour du Méditerranée, de la Méditerranée, etc., jusqu'à l'Afrique subsaharienne. Ceux qui demandent l'asile en Belgique, comme les chiffres l'indiquent, si ce chiffre est vrai, ce chiffre voudrait tout simplement dire démontrer où est l'expression de la mauvaise santé démocratique de notre pays. Rappelez-vous que M. Félix Tshilombo, après qu'il ait été nommé par Kabila, Félix est parti en Europe et avait fait une déclaration. Il avait dit, je demande à tous mes compatriotes qui vivent dans l'espace Schengen ou en Europe de rentrer au pays. Comme quoi, Kabila le Rwandais est parti, un fils du pays a les commandes, tout allait être bien. C'est pas moi qui avais dit. Je vous rappelle là les propos de M. Félix Tshisekedi. Mais ces Congolais dont je peux les répartir en deux catégories. Ceux qui ont demandé l'asile parce qu'ils étaient en danger sous le régime Tshisekedi, plutôt Kabila. C'était un effet. Nous autres, si nous étions restés au pays, c'est parce que nous étions déterminés à faire changer les choses. Mais sinon, on a été arrêtés, tabassés, emprisonnés et pingressés tout même dans les camps militaires Tchatchi, avec Chalupa. Mais on n'était pas partis.
Mais la situation a changé depuis l'avènement de Félix, c'est ce qu'il dit.
En tout cas, sous Kabila, il y avait une milice du PPRD qui avait des machettes avec chaleur. Sous Félix Tshisekedi, il y a une milice politico-tribale qu'on appelle les forces du progrès. Qui à Kinshasa?
Qui vous a fait quoi, Epengue?
Est-ce que je peux terminer?
Vous le laissez parler, s'il vous plaît, M. Kalonji.
Vous allez à Gramalik et en Binza ici, ils ont même un cachot. Les forces du progrès du PS ont un cachot en Binza Gramalik. Ils prélèvent même des taxes sous Félix Tshisekedi. Alors, si la situation a changé, c'est dans son pays imaginaire où tout va bien. La force du progrès a des états-majors partout dans toute la ville. Pendant la campagne, il y a des endroits où il faut demander l'autorisation de la force du progrès. Il y a des endroits où seuls les gens de Félix Tshisekedi peuvent entrer par la force du progrès. Je dois vous rappeler que de 2019 en 2022, nous avions enregistré des morts pendant nos manifestations. Des forts Paluku à Goma, militants de la Mouka, d'Avenkalala ici, tabassés devant les sièges de l'IDPS pendant notre marche. Et qui était décédé deux jours après à l'hôpital Saint-Joseph. Il m'a dit que ces choses ont changé. Là où les choses changent, il ne peut pas y avoir des morts, des gens qui sont tabassés devant les sièges d'épaisse, des gens qui reçoivent des balles réelles. Vous avez assisté à notre manifestation ici à Ngaba, où un enfant de 8 ans a été lynché et joué comme un ballon de football. Ça comptait que la Mouka, en ce moment, on a des militants en Afrique du Sud qu'on a envoyés avec les frères de Martin Fayulu pour qu'on puisse extirper des balles logées dans des crânes. Alors, nous sommes presque... On est en train de transformer la police nationale en une forme de Gestapo, une police politique qui est en train de repérer tous ceux qui sont militaires de la Mouka pour des raisons diverses, qui arrêtent et qui tabassent. La force du progrès opère parfois même avec la police nationale.
On peut alors, dire donc que
peuvent conduire les Congolais.
Toutes ces demandes d'asile.
Oui, j'ai dit, la vérité c'est qu'il y a aussi, ça c'est tout d'abord, je parle ici du plan de la dangerosité de la situation politique, l'intolérance politique qu'il y a à l'île domicile. Quand vous avez vu Félix, c'est que moi je ne reconnais pas, mais qui. Il est président, selon vous, qui dit que. Qui a menacé les Congolais. Félix a dit qu'il allait s'en prendre aux Congolais.
C'est la première fois qu'on voit un chef de l'État menacer les Congolais, de les arrêter, intimider les Congolais. D'ailleurs, vous venez de voir, avec Kofi Olomide, une simple vérité, une simple interpellation de Kofi Olomide aux acteurs politiques que nous sommes, en disant, donnez plus de moyens à l'armée, donnez plus de moyens à la police, ayez un comportement adéquat. Le président Zelensky de l'Ukraine, son pays est agressé pendant 2 ans, il a fait 2 ans, il a fait 2 ans avec une tenue militaire. Même quand il est invité à Washington, il est toujours en polo militaire. Ici, quand vous regardez Félix Tshisekedi et sa suite, ses ministres, ils sont habillés en Gucci, Dolce & Gabbana, Versace. Ils ne donnent pas l'image d'un pays en guerre. Et quand Kofi les interpelle, on dit Kofi est impoli, Kofi est inconscient.
Donc pour vous, le pays va mal, c'est pourquoi les Congolais préfèrent aller...
Oui, les Congolais fuient leur pays.
Faire des demandes d'asile.
À cause de la terreur que Félix a tenté de gagner. Et la situation va encore empirer. Parce qu'avec les velléités qu'a Félix Tshisekedi a révisé la Constitution, liée à la détermination qu'a Prince Peng a mobilisé, parce qu'en ce moment, mon parti a dit qu'on a été mobilisé dans tout Kinshasa, je sais que la situation va devenir terrible. Et nos militants sont harcelés, nos militants sont menacés, sont intimidés.
On va vous redonner.
Les gens fuient le pays avec raison. Le Congo est en train de glisser dangereusement vers des pratiques que nous avions combattues sous Kabila et
Pengé, professeur Alphonse Maïndo, vous êtes professeur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris, enseignant à l'Université de Kisangani. Professeur, selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer ces nombreuses demandes d'asile des Congolais?
Bien, merci beaucoup, madame. Je crois que il faut prendre les chiffres pour ce qu'ils sont. À mon avis, ce n'est pas des chiffres énormes quand si on compare ça avec d'autres pays, où on a des chiffres beaucoup plus élevés. Et il faut rappeler que beaucoup de Congolais qui sont contraints de quitter le pays le font plutôt dans les pays voisins ou à l'intérieur du pays, se déplacent pour fuir pour différentes raisons. Ces chiffres qu'on donne là, puisqu'on n'a pas exactement les données précises sur ça pour savoir qui est vraiment dans ces lots-là, pour faire une analyse beaucoup plus pointue. Mais ce que je voudrais dire avant que je commente sur les chiffres lui-même et le sens de ce départ, je voudrais d'abord souligner que les migrations, les déplacements des populations, tout ça et des individus, c'est un phénomène vieux comme le monde. Ce n'est pas la Belgique qui va arrêter ça. Ce n'est pas la France ou la RDC qui va arrêter ça. Ça existe depuis que l'homme est là et ça finira pas pour différentes raisons. Ça peut être pour des raisons climatiques, ça peut être pour des raisons économiques, pour chercher de la nourriture ou du travail ou un lieu plus prospère pour vivre. Ça peut être également pour des raisons politiques ou sécuritaires, on fuit une persécution. Et ça, c'est le premier élément important. Et deuxième élément important, l'exil, pour que quelqu'un puisse aller en exil, ça n'a jamais été quelque chose qui s'est fait avec gaieté de cœur, sauf pour les gens qui sont passionnés pour l'aventure. Mais généralement, quand les gens se résolvent à partir comme ça, c'est qu'ils sont vraiment dans les deux espoirs. Donc, il ne faut pas les culpabiliser pour ça, parce qu'ils n'ont plus d'autres possibilités pour le faire. Toutes les études qu'on a sur la question des migrations et tout ça, montre bien que les gens partent, et c'est pour ça que les exilés ont toujours un mal du pays, et beaucoup cherchent à revenir, et font tout pour revenir. Et ils contribuent beaucoup dans leur pays d'origine. Et je dois rappeler que les chiffres qui montrent aujourd'hui dans les études sur les migrants, si vous voulez, sur les expatriés, je préfère dire ça, c'est que et les rapports dans leur pays d'origine, de l'argent frais, beaucoup, ça varie selon les pays, ça peut aller jusqu'à 2-3 fois plus important que l'aide au développement que ces pays reçoivent. Donc ça, c'est des choses importantes à souligner. Je pense aussi que pour ce qui concerne la RDC, le fait qu'il y ait beaucoup de ces gens qui partent, pour la plupart, contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure ici, ce ne sont pas les gens qui viennent de l'Est ou de l'intérieur du pays. Pour la plupart des demandeurs d'asile congolais, ce sont des gens qui partent de Kinshasa. Voyez-vous, ce sont des gens qui partent de Kinshasa et non pas de l'intérieur du pays. Tout simplement parce que Kinshasa, c'est la porte de sortie du Congo. Et donc, les gens, ils vont passer par là. Et très peu de gens qui passent par d'autres, par les pays de l'Est comme l'Ouganda ou le Rwanda. Ils sont beaucoup moins nombreux que les Quinois. Et les Quinois, pourquoi ils ont cet attrait? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens de la diaspora qui viennent à Kinshasa et qui montrent, qui étalent un peu leur succès. Et la chanson, la musique populaire, ça donne une représentation de l'Occident qui fait que les gens rêvent d'y aller. Alors maintenant, pour ce qui est de la situation actuelle, il y a, à mon avis, une combinaison de deux facteurs importants. Il y a les facteurs politiques et il y a les facteurs économiques et sociaux. Les facteurs politiques, c'est quoi? C'est qu'on assiste depuis quelques années à une restriction drastique de l'espace civique, de l'espace des libertés. Et le dernier exemple qui vient de citer d'ailleurs par, par un des co-débatteurs, c'est l'exemple de Kofi qui a exprimé ses opinions à la télé et vous savez ce qui lui est arrivé. Mais vous savez aussi qu'il y a d'autres gens qui ont essayé de parler et vous savez ce qui leur est arrivé. Jamak Kabound, Frank Biyongo, et on peut citer d'autres aussi qui ont été malmenés en termes de restriction de l'espace civique. Hein. Salomon Okende a passé plusieurs mois en prison. Salomon Kalonda a passé plusieurs mois en prison. Chérubin Okende. Et aujourd'hui, on a aussi quelqu'un d'autre qui est d'ailleurs revenu de la diaspora. On l'a invité pour venir travailler et qui se retrouve aujourd'hui en prison et qui doit faire face à la justice militaire. Donc, s'il s'agit ici de Jean-Jacques Wondo. Donc, on a là, si vous voulez, une situation où il y a une restriction réelle de l'espace civique et de l'espace des libertés. Et deuxièmement, il y a aussi une intolérance politique exacerbée. Et tout à l'heure, on évoquait les milices. Les milices politiques, il y en a beaucoup, il n'y a pas qu'à Kinshasa, dans les provinces aussi. Il n'y a pas que les milices des partis au pouvoir, il y a aussi des milices d'autres personnalités politiques qui sévissent à travers les pays, qui rendent la vie des gens insupportable. Et donc, il suffit que vous puissiez avoir des opinions contraires à celles de l'autorité morale de cette milice-là, eh bien, vous avez des problèmes. Or, il n'y a pas d'État pour vous protéger. Et donc, ça fait, en définitive, que c'est l'État qui pousse les gens à la sortie. Et il y a aussi l'instabilité, l'incertitude politique. Quand vous êtes dans un pays où vous ne savez pas ce qui va vous arriver demain, et ce qui peut faire, c'est faire et tout ça. Donc, ça pousse les gens à aller chercher, et c'est humain, à aller chercher, si vous voulez, des endroits beaucoup plus stables et raisonnables. Et sous le plan facteur économique et social, je disais, vous avez le pouvoir d'achat qui ne cesse de s'éroder, vous avez l'inflation, vous avez un chômage de masse, vous avez des jeunes diplômés que nous formons. Moi, je vois mes étudiants qui terminent des licenciés en économie ou des licenciés en sciences po ou en relations internationales qui finissent par devenir chauffeurs de taxi moto ou petits changeurs de monnaie, tout ça. Ce n'est pas admissible. On ne fait pas 5 ans d'université pour ça. Et les services sociaux de base qui n'existaient pas, voyez-vous, et on a compliqué avec ce qu'on a dit, la gratuité de l'école ou de la santé. C'est que les hôpitaux ne peuvent plus même acheter les médicaments pour servir les gens, donc ça devient encore plus difficile. Et l'entrepreneuriat, on pourrait dire, voilà, les gens devraient entreprendre, mais ils ne peuvent pas entreprendre. Il y a tellement de charges fiscales et parafiscales. Demandez à une maman qui vous vend des beignets au marché combien elle paye par mois. C'est énorme et personne ne peut tenir à ça. Et donc, il y a tous ces éléments-là qui font que les gens partent. Mais en réalité, le problème de l'asile politique, quand on pose ça ici, c'est parce que c'est les gens qui vont là-bas, qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui se sont débrouillés pour appuyés par telle ou telle personne qui pose problème. Mais les autres qui ont de l'argent, s'ils arrivent en Occident, ils n'ont pas de problème. Même s'ils demandent asile, on ne s'en plaint pas.
Professeur, vous ne pensez
ils ne sont
pas
la charge de l'État.
Ne pensez-vous pas, professeur, que c'est une interpellation de la Belgique lorsque le directeur de l'Office des étrangers belges dit que la Belgique ou Bruxelles ne se réjouit pas de cette situation, même si elle reste ouverte. Ils sont même étonnés que les efforts conjoints entre l'Office des étrangers et les services d'immigration de la RDC n'aient pas encore réussi à freiner l'afflux des demandes d'asile. Ça peut être une interpellation,
oui,
ça veut dire que ça dérange aussi les Belges de recevoir ces nombreuses demandes.
Oui, c'est une interpellation qui a sa raison d'être. je comprends bien que la Belgique ne peut pas prendre toute la misère du monde, toute la misère du Congo. Mais la Belgique a aussi profité du Congo. Et donc, je pense que il est quand même aussi de sa responsabilité en partie de pouvoir donner aussi un moment de répit, ne plus que temporaire, à des gens qui sont en difficulté. C'est cela la Convention de Genève. La Convention de Genève dit ceci, que si vous avez peur pour votre vie, vous pouvez demander l'asile politique. Donc, cette peur-là, c'est une notion subjective. Si vous craignez pour votre vie, ça peut être juste parce qu'on vous a regardé de travers, ou ça peut être parce qu'on vous a menacé verbalement, ou on est venu arrêter vos frères ou sœurs. Donc cette peur, c'est ça qui est dit dans la Convention de Genève. Donc, je comprends la préoccupation de la Belgique qui ne peut pas absorber toute la misère, mais il faudrait travailler plutôt les vraies causes. Pourquoi les gens fuient leur pays? Personne n'aime vivre à l'étranger. Et vous parlez avec tous ceux qui ont déjà été qui ont déjà vécu à l'étranger, et Ken Ouaddodo l'avait bien rappelé à l'ancien président, ce n'est jamais, si vous voulez, une partie des plaisirs que de vivre à l'étranger. Et donc les gens ne vont pas de gaieté de cœur. Il faut créer les conditions pour que les gens restent. Pourquoi doit-on continuer à soutenir des régimes qui oppriment les libertés des gens? Pourquoi doit-on continuer à faire des affaires avec les régimes qui ne respectent pas les droits humains, les régimes qui garantissent l'impunité, où la corruption fait loi, tout ça? Pourquoi on ne prend pas des mesures pour s'attaquer à ces maux-là qui font que les gens n'ont plus d'espoir et ils vont ailleurs? Et donc, avant de venir parler aux Congolais, il faut d'abord parler aux régimes avec lesquels on collabore. Voilà.
Merci, professeur. On va ouvrir notre standard pour écouter aussi les avis des auditeurs qui sont très très nombreux à nous suivre que ce soit sur Radio Okapi, et même les internautes très nombreux sur YouTube et Facebook. On va se rendre à Beni dans la province du Nord Kivu pour écouter cet auditeur.
Fabrice Ambili depuis la ville de Beni au Nord Kivu. À mon avis, je pense que la majorité de ces demandeurs d'asile expriment tout simplement un réel besoin de protection vis-à-vis du régime en place qui persécute, outre les opposants qui ne confessent pas sa dictature, mais aussi ce taux élevé se justifierait par la mauvaise gouvernance du pays depuis plusieurs décennies et qui n'inspire plus d'ailleurs ni confiance ni espoir d'avenir. La pauvreté, n'en parlons pas, l'insécurité qui bat les corps, le chômage, d'où demander l'asile devient un canal facile pour obtenir le visa en quête d'une vie meilleure. Alors que les Congolais sont braves et courageux d'ailleurs, mais le comble est qu'ils n'ont pas d'opportunité dans leur propre pays. Pourtant, un pays riche au scandale géologique sans précédent.
Monsieur Kalonji, réaction.
J'ai suivi mes co-débatteurs et je voudrais dire d'emblée, M. Epengue a soulevé des questions qui ne cadrent pas avec peut-être la question, mais j'ai dit ceci. Aujourd'hui, on prétend qu'il y a une force au-dessus de la loi qui s'appelle force du progrès, alors qu'on a vu même certains membres de l'UDPS comme Jules Mounieré, le célèbrement connu, arrêté et emprisonné sous le régime de l'UDPS. Donc, dire qu'il y a des personnes qui sont pourchassées parce que juste ils sont membres du parti de Epengue, ça m'étonne. Il ne faudrait pas utiliser... aujourd'hui, nous avons des politiciens de plateau. Ils sont grands quand ils sont devant un micro dans les salons politiques, mais la base ne reflète pas cette réalité. Aujourd'hui, on nous cite des gens blessés en Afrique du Sud. Il faudrait poser la question à la police sud-africaine et non poser la question à la police congolaise ou au président Tshisekedi. Ici, à Kinshasa, il y a des normes. Nous sommes dans un pays en guerre, il ne faudrait pas l'oublier. Aujourd'hui, nous saluons l'effort de la communauté internationale, entre autres de Nations Unies, qui reconnaissent pour la première fois et de manière documentée qu'il y a une agression réelle et il y a des militaires des pays voisins sur les territoires.
Vous l'avez déjà dit, monsieur Kalonji, mais il y a un auditeur qui parle de la mauvaise gouvernance du pays.
La mauvaise...
Qui pousse les gens à pouvoir...
La mauvaise gouvernance, nous la déplorons tous. Et moi, je pense que ce pays ne peut se développer qu'avec la rigueur de la loi. Je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait arrêter et envoyer en prison. S'il y a des faits avérés de mauvaise gouvernance, de corruption, de malversation financière, pour moi, il faudrait arrêter. Mais cela ne justifie pas qu'il y ait des personnes qui, chaque matin, se réveillent et disent parce que X, Y est cité pour dans tel dossier de détournement, moi, je m'exile. L'exil, c'est une décision difficile à prendre, premièrement. Et c'est pour cela qu'il faudrait qu'il y ait des motivations réelles pour que ces personnes aillent en exil. C'est pour cela, le professeur tout à l'heure disait, il fallait que cet office des étrangers puisse nous clarifier et nous donner les spécificités de chaque demandeur d'asile. Ce sont des demandeurs d'asile pour des raisons économiques, pour des raisons de santé. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de personnes qui partent à l'étranger pour des raisons médicales,
pour des raisons médicales,
et comme ils ne peuvent plus jouir du passeport qu'ils ont, du visa qui les a permis de se retrouver dans ces pays, demandent l'asile pour pouvoir rester et continuer ces soins médicaux. Donc il y a autant de personnes, il faudrait les spécifier, et après cela, nous pouvons dire que oui, ils sont partis pour des raisons économiques. Je vous dis que nous ne pouvons pas dire que tout va bien au Congo. Nous avons un pays qui est depuis 30 années en guerre, et que ces pays, pour remettre les tissus économiques en place, ce n'est pas facile. Donc, les pays occidentaux donnent plus de garanties. Il ne faudrait pas les nier sur le plan santé médicale, sur le plan sécuritaire, sur les plans alimentaires. Il y a autant de facilités que les personnes peuvent se dire, bon, si je suis dans ce pays-là, au-delà de ceci, je peux vivre de telles allocations et le temps que mon pays aille. Nous ne les cachons pas, mais dire que Tshisekedi ne fait rien, que la situation s'est empirée sur Tshisekedi, ça c'est un gros mensonge qu'il faudrait oublier.
Kalonji, on va aller à Kisangani pour écouter cet autre auditeur.
C'est Maître Dodé Tokinda depuis Kisangani dans la province de la Tchop. Selon moi, cette migration des Congolais vers la Belgique ne traduit rien d'autre chose que les conditions précaires de vie en RDC. Et cette précarité s'explique sur base du chômage accru, de l'insécurité généralisée sur l'ensemble du pays, de la dépréciation du franc congolais qui impacte négativement sur les paniers du ménager, du partage non équilibré des ressources nationales entre les gouvernants et les gouvernants, ainsi que de la dépravation des mœurs. Voilà pourquoi les Congolais sont en train de perdre l'espoir d'un avenir meilleur. Par conséquent, ceux qui ont des moyens ne trouvent mieux que d'aller ailleurs, contrairement à ceux qui ne savent échapper faute de moyens.
Bref, commentaire, Épingué.
Il a raison. Nous l'avions, où nous venions de citer les facteurs qui justifient les chiffres assez inquiétants des personnes exilées. Nous avons dit des facteurs politiques et qui, à mon avis, ne s'améliorent pas. Et il y a des facteurs également économiques. Et quand M. Félix Tshisekedi disait aux Congolais « rentrez au pays », les Congolais, il y en a qui ont tenté effectivement de rentrer au pays. Mais pour ouvrir une entreprise, malgré la loi Ouadé, etc., vous devez corrompre, vous devez le dossier doit passer 6 mois dans cette administration qui est encore lourde et corrompue. Et il faut passer par les conseils chefs de l'État, il faut passer par quelqu'un qui a la connaissance, et il faut que le trafic d'influence est encore là. Donc, absolument aucun cadre n'est aménagé, aucune réforme n'a été opérée pour que ces Congolais qui travaillent et à l'étranger, qui ont créé la richesse là-bas et qui veulent rentrer au pays, et puissent venir et continuer leur boulot. Donc, les conditions, effectivement, et la situation économique également, a justifié le fait que certains Congolais aient quitté le pays. Mais, madame, le professeur l'a rappelé à juste titre, c'est difficile d'être en exil. C'est extrêmement difficile de poser la question à tout le Congolais. Donc, ici, ce qu'il faudra faire, c'est de créer les conditions pour que ces Congolais ne partent pas. Est-ce que vous savez qu'avec ces exilés, nous perdons beaucoup? De la même manière qu'on parle de fuites de capitaux, de la même manière, nous avons également des fuites de cerveaux. Nous perdons également des cerveaux. Et c'est là des Congolais qui sont partis étudier refusent de rentrer. Moi, j'aurais souhaité que mon frère de l'île qui a à mes côtés me dise, qu'est-ce qui a été fait pour que ceux qui partent ne puissent plus puissent rentrer. Par exemple, ceux qui partent étudier puissent rentrer au pays une fois que les études terminées. Que ceux qui ont envie de partir ne puissent pas partir parce qu'évidemment, ils se rendent compte que bon, voilà, j'ai mon diplôme en économie, en agronomie, et je ne sais pas si en lettres, etc. Je peux postuler et je peux avoir la chance d'avoir un emploi. Nous sommes dans un pays où on a tellement politisé l'administration que, écoutez, il faut être recommandé par les gens du pouvoir. Et nous avons une situation où, si vous êtes de la Mouka, vous êtes de l'ensemble, et vous êtes de la DD Congo, écoutez, vous allez, on vous demande plutôt, vous êtes de quel parti, pour que l'administration publique puisse vous embaucher, peu importe vos qualités. Ce sont des facteurs qu'il faut carrément supprimer pour que la situation soit réglée. Je crois que c'est une interpellation. Les points de presse qui ont été faits par les Belges, par ces représentants belges, ne peut que nous interpeller, nous, à faire des réformes, à créer les conditions. Le Congo est un immense chantier. Que si on a un leadership fort, enfin, les jours où on aura un leadership fort, c'est-à-dire que les gens capables d'organiser la société, d'organiser les Congolais pour atteindre le but que nous voulons, c'est-à-dire le développement, eh bien, ces jours-là, on aura de moins en moins des exilés. D'ailleurs, c'est un peu comme la situation des églises. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a des églises qui prient de lundi à dimanche. Il y a des églises qui prient de 6 heures à 18 heures. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'emploi. Les jours où 85% des Congolais trouvent les apprentissages créés, sont embauchés, ont un emploi, et bien les gens iront à l'église rendre grâce à Dieu le dimanche, ou peut-être 2 fois par semaine.
Merci.
Mais parce que les gens n'ont rien à faire, et dans ces conditions-là, les facteurs politiques, l'économie, le tissu économique qui est en lambeau, vous mettez ensemble, ça peut justifier aisément, même ce chiffre qui, à mon avis, doit aussi être discutable parce qu'on ne sait
Merci.
Pas qui
est qui. Merci, vous l'avez dit, Prince Epengue, on va écouter ce dernier auditeur qui appelle de Kinshasa.
Alphonse Tefou, depuis la ville province de Kinshasa. Je pense que les nombreuses demandes d'asile des Congolais en Belgique ont dit à l'environnement social et économique très difficile en RDC, à une crise économique indicible, à la recherche d'emplois décents, à la pauvreté sans merci, il est très très difficile aux jeunes diplômés d'avoir du travail en RDC, et ceux qui n'ont pas étudié n'ont aucun espoir. Aucune politique d'encadrement des jeunes, les conditions de vie pas trop promettantes, cependant, les Congolais, à la recherche de survie, optent de trouver refuge non seulement en Belgique, mais dans tous les pays du monde, n'ont aucune valeur aux yeux des autres. Pour ce faire, cette dénonciation du directeur de l'Office des étrangers belge puisse interpeller les autorités congolaises sur leur manière de gérer le pays distribuer des richesses nationales, qu'il puisse avoir des visions claires, un leadership responsable pour remédier à ces genres de situations et la crise économique qui se vit dans le pays.
Professeur Alphonse Maindo, voilà, l'auditeur de Kinshasa revient en partie sur ce que vous vous avez dit tout à l'heure, hein, lors de votre première prise des paroles. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour je dirais pas stopper, les gens ils vont toujours partir à l'étranger, mais comment réduire, hein, quand même faire baisser ces chiffres, ces chiffres dévoilés par l'Office des étrangers belges? Qu'est-ce qu'il faut pour que les Congolais se sentent mieux chez eux, dans leur pays?
Bon, vous savez, peut-être avant de faire un commentaire sur ça, je voudrais dire que si vous regardez globalement toutes les migrations internationales, on constate qu'il y a trois pays qui sont les principaux pays d'accueil. Il n'y a pas la Belgique dedans. Vous avez les États-Unis, la Russie et l'Allemagne. Après, vous avez aussi trois grands pays qui sont les principaux fournisseurs des migrants. Ces pays sont lesquels? C'est la Chine, c'est l'Inde, c'est les Philippines. Bon, alors, donc, il ne faut pas qu'on puisse réduire les migrations simplement à la dimension économique. Et si on veut diminuer les migrations des gens, alors il faut, je voudrais vous donner ici un élément qui pourrait nous faciliter, c'est ce que Yelty appelle la théorie de l'osmose, puisque c'est comme ça que lui il explique les migrations. L'osmose, vous savez comment ça se passe en chimie par rapport au traitement de l'eau, c'est que pour lui, il représente les pays par des cellules, et les frontières, c'est des membranes semi-perméables, et les humains comme les ions d'eau. Et donc, dans un pays, il y a une forte pression, ça peut être pression due à des problèmes politiques, économiques et autres, alors à travers les frontières qui sont un peu poreuses, donc c'est ça les membranes, si vous voulez, semi-perméables, les gens vont aller là où il y a moins de pression de ces gens. Et donc ce qu'il faut faire, si on veut réduire les migrations des Congolais vers l'étranger, il faut que nous soyons dans une situation où nous avons une pression faible, c'est-à-dire que politiquement, sécuritairement, économiquement, il y a une meilleure situation, et alors les gens vont rester et les gens vont au contraire venir chez nous. Ceci dit, quel que soit le cas de figure, qu'il y ait des gens qui partent ou qu'il y ait des gens qui reviennent, les migrations sont toujours bénéfiques pour l'économie. Même le Fonds monétaire international a fait des études qui ont montré les bénéfices économiques pour les pays avancés, mais aussi pour les pays donateurs, disons, les pays qui donnent des migrants en termes de bénéfices économiques. Et ça contribue donc à la prospérité économique mondiale. Et donc on ne peut pas dire qu'il faut arrêter ça. Et la Belgique aussi profite de ça, et le Congo profite de ces migrations. Mais il faut quand même que ça reste, si vous voulez, d'une certaine manière, contrôlé. Alors, les migrations, il y a aussi les animaux qui se déplacent. On ne peut pas les empêcher.
Il faut conclure, professeur.
Mais les humains, on peut les empêcher parce qu'en fait... oui.
Alors, je disais, il faut conclure, oui, nous sommes à la fin de l'émission.
Alors, pour conclure, ce que je voudrais dire, que la question de la migration, c'est une question fondamentale, une question essentielle. Et qu'il faut vraiment prendre très sérieusement et après analyser ça, regarder les différents facteurs qui poussent les gens à aller prendre des risques énormes pour aller vivre à l'étranger avec le mal du pays, loin de leur terre, parce que les gens sont très attachés à la terre. Donc si on adresse ces problèmes-là, les causes réelles de ces mouvements, alors on peut réduire les mouvements de déplacement des populations. Et il faut nous attendre dans les prochaines années à avoir aussi des migrants climatiques, puisque les conditions climatiques sont en train de se détériorer gravement. Merci.
Merci, professeur. Jean-Michel Kalongi, 30 secondes pour conclure.
Les déplacements des peuples restent une réalité, et que dans la situation politique économique et sécuritaire de notre pays. Nous allons toujours avoir des Congolais qui vont se sentir mieux en dehors du territoire pour se protéger, pour fuir, pour rechercher des solutions médicales, pour rechercher des solutions économiques. Mais remettre le tout sur une mégestion ou sur de l'incapacité du président en place de gérer le pays, ça c'est un faux débat. Le pays ne va pas bien, mais je pense que nous avons un président qui est conscient de la situation et le gouvernement en place avec Madame la Première Ministre qui fait des efforts immenses pour que la situation du Congolais puisse s'améliorer.
Merci, Prince Pengue.
Ces chiffres qui nous viennent des offices étrangers belges prouvent à suffisance que on n'a pas un leadership efficace et éclairé à la tête de l'État. Et que celui qui est là, véritablement, n'est pas à sa place. C'est tout le plan. Les Congolais fuient les pays, ce qui est une situation contraire à celle que mon grand frère Félix Tshisekedi avait souhaité. Lui qui avait dit aux Congolais rentrer au pays, sous sa gouvernance, les Congolais sont en train de fuir le pays comme ils fuyaient la peste. Ça veut dire que si le plan politique d'abord, la situation est dramatique. On a parlé ici de Kofi Olomide qui est malmené et qui est convoqué tout simplement parce qu'il a dit la vérité, il nous a interpellés. Et ne parlons pas de nos militantes et militants de la DD Congo de la Mouka qui aujourd'hui ne peuvent pas dire non à la révision constitutionnelle, ne peuvent pas dénoncer l'incapacité de ce régime. Donc bref, tous les voyages sont au rouge. C'est une interpellation. Je pense que mon ami de l'IDP, qui a, excusez-moi de dire le mot, mais menti ici, sous Kabila, les fonctionnaires étaient payés les 26. Sous Félix Tshisekedi, ils ne savent même plus quand est-ce qu'ils sont payés.
Ils sont payés le 25.
L'actuel ministre a promis qu'il paiera les 28 payés. On est passé au-delà du 28, ils n'avaient pas payé.
Merci, Prince Mbengue. Merci, Jean-Michel
Kanoji.
L'émission est finie. Dialogue en congolais. C'est fini pour ce soir. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.